Les informations vous sont présentées par Camille Magnard. Bonsoir Camille.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. On savait Emmanuel Macron inspiré par la figure de Jupiter. Il se révèle en mars intraitable chef des armées. En a-t-il trop fait pour marquer son autorité et obtenir la tête du général de Villiers? Nous poserons la question à Christine Moncla et aux députés rencontrés à l'Assemblée par Ilan Malka. Les tarifs réglementés du gaz sont contraires au droit européen. Le Conseil d'État donne raison aux nouveaux opérateurs face aux anciens, dossiers suivis par Jean-Marc Chardon. Une vérité toujours insaisissable. Un an après la mort d'Adama Traoré, le jeune homme a-t-il été victime d'une bavure policière? Nous ferons le point sur l'enquête avec Antoine Marette. L'état de droit menacé en Pologne, c'est la Commission européenne qui le dit. Bruxelles qui somme Varsovie de suspendre la réforme très contestée de sa justice. Nous serons en ligne depuis Bruxelles avec Quentin Dickinson. Nous parlerons aussi théâtre privé et publicité. La réclame va faire son apparition avant le lever de rideau dans certaines salles françaises. Explication de Cécile de Kervas-Doué. L'exécutif n'aura vraiment pas traîné pour nommer un remplaçant au général Pierre de Villiers. Le nouveau chef d'état-major des armées, c'est François Lecointre, général issu de la marine, 55 ans. Il arrive de Matignon, où il dirigeait le cabinet militaire depuis la période Manuel Valls. Voilà pour le CV, mais c'est surtout sur la forme que la démission de ce matin n'a pas fini de faire réagir. Bonsoir Christine Moncla.
Bonsoir Camille.
C'est bien une crise majeure qui s'est dénouée ce matin, la plus grave pour Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. En obtenant la tête du patron des armées, le chef de l'État et peut-être aller trop loin dans cette posture autoritaire qu'il semble tant affectionner.
C'est une démission qui souligne en tout cas deux écueils dans la gestion d'Emmanuel Macron. D'abord, le manque de dialogue sur le budget de l'armée. Il y a eu visiblement un manque de concertation et d'explication. Et puis, une forme de rigidité qui s'est manifestée par deux fois. Jeudi dernier, d'abord face aux militaires avec ce recadrage qualifié jusque dans l'état-major de sec. Puis dimanche, quand il a rappelé dans une interview que si le chef d'état-major n'était pas d'accord, eh bien il devait changer. À partir de là, Pierre de Villiers n'avait plus vraiment le choix. Il avait déjà dû subir le défilé du 14 juillet et il devait s'afficher normalement demain aux côtés du président sur la base militaire d'Istres. Il a donc décidé de démissionner dès ce matin et l'institution militaire insiste sur ce point. Il n'a pas été limogé, il a démissionné. Et contrairement à Emmanuel Macron, le général de Villiers, lui, ne s'est pas exprimé publiquement depuis son audition jugée trop franche à l'Assemblée nationale le 13 juillet dernier. Alors au final, c'est donc bien le président qui remporte ce bras de fer, si on peut dire, mais par voie institutionnelle seulement, car comme le soulignait sur cette antenne votre invité ce midi, le général Desportes, le lien de confiance est au moins endommagé entre Emmanuel Macron et l'armée. Et puis politiquement, cela provoque une vague de protestations, toutes tendances confondues, y compris dans son propre camp. C'est la deuxième vague de critiques en moins d'une semaine, avec celle des élus locaux contre les 13 milliards d'économies que l'État leur demande de faire.
Merci Christine Moncla. On poursuit sur les réactions politiques à cette crise au sommet de l'État. Ilan Malka, vous revenez, vous, de l'Assemblée nationale, où le sujet forcément a été évoqué dans les questions au gouvernement. La démission du général de Villiers n'a pas vraiment surpris les députés, qui sont nombreux, tous bords confondus, à justifier sa décision.
Oui, les craintes du général de Villiers sont légitimes. Il les a formulées à huis clos. Cela n'aurait donc pas dû susciter de réaction. Sa démission est donc justifiée. Voilà ce qui se dit dans l'opposition à l'Assemblée. Tout le monde est vent debout contre la baisse des crédits de l'armée. Jean-Louis Masson, par exemple, est député Les Républicains du Var. Il est également colonel.
Nos militaires ont besoin de matériel maintenant. 60% des véhicules ne sont pas blindés et donc sautent sur les mines au Mali et ailleurs. Et donc je crois que la crise qu'il y a entre le chef de l'État et l'ex-chef d'état-major des armées est une crise grave. Nul n'est dupe sur les difficultés qu'ont les armées à exécuter leur mission et le peu de moyens qu'ils ont.
Alors l'analyse est partagée à gauche. Alexis Corbière est député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il avait écouté le général de Villiers il y a quelques jours à l'Assemblée.
Pour le parlementaire que je suis, qui n'est pas un militariste, mais qui pense tout de même que nous avons besoin d'une armée pour défendre notre souveraineté nationale, on ne peut pas demander à ce que nous intervenions sur beaucoup d'opérations extérieures ou d'opérations intérieures, de maintenir le dispositif Sentinelle, d'améliorer notre matériel militaire. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout de même, ce que nous a dit le général, si on demande à nos armées d'agir avec 850 millions de moins, cela aura des conséquences. C'est ce qu'il nous a dit, et je ne comprends pas que cela entraîne un recadrage.
Et cet après-midi à l'Assemblée, Pierre de Villiers est unanimement salué comme un grand chef d'état-major qui a eu le courage de ses opinions.
Ilan Malka, merci à vous. Échange d'amabilité cette fois entre le FN et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre Sophie Montel. Il s'agit de cette eurodéputée frontiste visée par l'enquête sur les assistants parlementaires du FN et qui a répliqué ces dernières semaines en dénonçant les mêmes agissements supposés chez d'autres formations politiques. Hier, on apprenait que l'enquête préliminaire du du parquet de Paris avait été élargie automatiquement aux assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon, et ce, après de nouvelles dépositions de Sophie Montel le concernant. Vers la fin des tarifs réglementés pour le gaz naturel en France, ces tarifs ils sont fixés par l'État, régulièrement concédés aux opérateurs traditionnels comme Engie, l'ex-GDF, eh bien ces tarifs sont illégaux, contraires au droit européen et au principe de libre concurrence. C'est le Conseil d'État qui vient de trancher. Il avait été saisi par un groupe de nouveaux opérateurs sur le marché du gaz naturel, Jean-Marc Chardon. Ils ont donc eu gain de cause. Reste à savoir quelles conséquences ça va avoir sur la facture de millions de consommateurs.
Alors disons tout de suite que si la réponse devait être catégorique, ce serait sans doute un peu trop simple pour la bonne raison que l'on est sur des régimes d'offres qui sont déjà diversifiés, sous l'effet de la concurrence bien sûr, mais aussi des types même de contrats ajustés que propose Engie sur 3 ans par exemple, et que la sortie des tarifs réglementés, elle devrait s'effectuer de manière à en étaler les conséquences sur les prix. On peut faire en sorte que ce soit lissé dans le temps, a indiqué Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. Alors sachant que plus de 9 millions de consommateurs se fournissent en gaz à un tarif réglementé, il est donc probable que la correction se fera par palier afin que les usagers, enfin les clients, n'aient pas l'impression d'être lésés au changement de régime. À court terme, comme on observe depuis quelques années que le marché du gaz a tendance à baisser et que les opérateurs alternatifs jouent la baisse des prix, on peut s'attendre à l'accentuation de ce mouvement, donc des prix à la baisse, baisse de la facture, mais sans garantie pour autant, car une tendance n'engage pas l'avenir d'un marché. C'est tous les mois que les prix bougent sur ce marché. Dans les années 2000, il y a eu des pics et des baisses, mais c'est globalement la hausse qui avait prévalu. C'est l'inverse actuellement, mais sans l'assurance que ce sera durable.
Jean-Marc Chardon et le Conseil d'État qui s'est aussi prononcé ce mercredi sur le cas de Vincent Lambert, ce Rémois tétraplégique après un accident de voiture en 2008. Les sages ont jugé illégale la décision prise en 2015 par le médecin du jeune homme à l'époque, décision d'arrêter les soins qui le maintiennent en vie. La procédure soutenue par la compagne de Lambert était depuis combattue par ses parents. Le Conseil d'État a donc estimé que c'est au médecin actuel de Vincent Lambert de décider si oui ou non les soins pratiqués constituent une obstination déraisonnable. C'était il y a un an aujourd'hui, un jeune homme de 24 ans qui décédait dans la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise après une interpellation musclée. La mort d'Adama Traoré, on s'en souvient, avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes. Sa famille dénonce depuis une bavure policière. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Un an après le drame, donc, l'enquête en est toujours aux expertises médicales.
Effectivement, 4 expertises médicales en tout, 2 autopsies et 2 expertises anatomopathologiques à partir des tissus prélevés sur le corps d'Adama Traoré. Et on attend la nomination d'un magistrat instructeur qui va effectuer une expertise médicale de synthèse à partir de ces 4 expertises. Il tentera de déterminer les causes exactes de la mort d'Adama Traoré. Est-il décédé suite à un plaquage ventral? Cette technique a été employée par les gendarmes pour tenter de le maîtriser. Et selon sa famille, ce plaquage ventral aurait provoqué sa mort par asphyxie. Ou alors, autre hypothèse, Adama Traoré avait déjà des fragilités de santé. Elles auraient déclenché sa mort lors d'un épisode d'effort et de stress. Beaucoup de précautions sont prises, donc, avant de parvenir à une conclusion, car de cette conclusion dépendront les suites judiciaires de cette affaire et en particulier le statut sous lequel les gendarmes vont être entendus, celui de simple témoin ou celui de mise en examen. 3 juges d'instruction pilotent cette enquête et la pression est considérable, car la famille d'Adama Traoré a fait de cette affaire un symbole des violences policières. L'une de ses sœurs a même écrit un livre dans lequel elle exprime sa colère. Pour Assa Traoré, interviewé dans l'Humanité, il y a eu avant Adama des centaines de morts, avec à chaque fois une machine à fabriquer des non-lieux selon elle. La famille Traoré a d'ailleurs appelé à une marche samedi prochain à Beaumont-sur-Oise, 1 an, jour pour jour après la première marche pour Adama.
Antoine Marette, merci à vous. Pas un seul salarié ne sera laissé de côté. C'est la promesse faite par Bruno Le Maire aux salariés de GMES. Le ministre de l'économie s'est rendu en début d'après-midi dans l'usine creusoise de la Souterraine au moment où le tribunal de commerce de Poitiers repoussait à lundi prochain sa décision sur une éventuelle reprise par la société GMD. Bruno Le Maire a garanti que la pérennité du site serait maintenue dans les 5 années qui viennent. Pas de quoi pour autant rassurer les salariés. 277 actuellement chez GMS pour seulement 120 postes qui devraient être sauvés. Les autres devront se contenter d'une offre de formation doublée à 5000 euros. Autre engagement du ministre de l'économie. L'Europe s'inquiète pour la justice en Pologne et elle le fait savoir. Le pays dirigé par les conservateurs du PiS a voté ces derniers mois des réformes judiciaires qui menacent clairement l'état de droit, selon donc la Commission européenne. Trop de pouvoir accordé à l'exécutif polonais, une cour suprême aux ordres, une séparation des pouvoirs mise à mal. Bruxelles hausse donc le ton face à la pente inquiétante prise par Varsovie. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous.
Si le pouvoir polonais n'accepte pas de reporter ces réformes contestées, la Commission brandit même sa menace ultime, l'article 7 du traité de Lisbonne.
Car il y a le contexte général de l'ambiance fortement dégradée depuis un an entre le gouvernement polonais actuel et la Commission européenne, c'est indéniable. Mais cette dernière, la Commission européenne, veut ne s'en tenir qu'au strict contenu des textes de loi. Et ce qui est décrit ici comme la vive préoccupation de la Commission vise la loi polonaise sur le Conseil national de la magistrature, celle sur l'École nationale de la magistrature, celle sur l'organisation générale des cours et tribunaux, et celle sur la Cour suprême. Il se répète ici que la promulgation telle quelle de ces quatre textes est de nature à saper l'indépendance de la justice et à mettre gravement en péril la notion même d'état de droit. En Pologne, on ne peut pas être plus clair. Voilà donc ce qui ressort du débat approfondi contenu ce matin à huis clos. Les 28 commissaires européens, ceux-ci ont demandé à leur service une analyse juridique, des moyens de pression à leur disposition, y compris, vous le disiez, le recours à l'arme nucléaire, c'est-à-dire à l'article 7, alinéa 1er, 2 et 3 du traité de Lisbonne, qui permettent de priver un État membre en rupture de ban de son droit de vote en Conseil des ministres de l'UE. La suspension du versement d'aides et de subventions diverses est également à l'étude. La décision définitive de la Commission européenne interviendra la semaine prochaine.
Quentin Dickinson, merci à vous en direct du bureau bruxellois de France Culture. On parlait de possibles sanctions européennes contre la Pologne. Eh bien de sanctions, il en est également question entre l'Allemagne et la Turquie. Berlin convoque l'ambassadeur turc pour protester contre la détention en Turquie d'un ressortissant allemand, un employé d'Amnesty International qui a été arrêté le 5 juillet avec 5 autres militants de l'ONG. Ils sont tous accusés de soutien à une entreprise terroriste, un motif très flou, souvent utilisé, il faut bien le dire, par la justice turque pour réprimer les défenseurs des droits de l'homme. Vous regardez le JT de TF1, on se retrouve juste après une page de pub. Non, rassurez-vous, vous êtes bien sur France Culture, antenne garantie sans réclame, mais ce n'est pas une plaisanterie, les journaux télévisés de la première chaîne à 13h et 20h seront bien entrecoupés d'écrans publicitaires et ce, dès l'an prochain. Le CSA vient de donner son autorisation à la chaîne dans le cadre de la renégociation de son autorisation de diffusion. Et puis la publicité, vous n'y échapperez bientôt plus, même pas dans les théâtres. Dès le mois de septembre, certaines salles privées vont diffuser un écran de pub avant le spectacle. Comme au cinéma, ce sera le cas à Paris, mais aussi à Rouen, Marseille ou Avignon. Cet établissement tente l'expérience pour le moment. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Trois pubs avant les trois coups. Ce n'est pas la première fois que la publicité tente d'investir le théâtre, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné.
Non, il y a 40 ans, faute de moyens et peut-être aussi devant le refus du public, les théâtres avaient abandonné l'idée de passer de la pub. Et c'est d'ailleurs ça, fort de cet échec-là, que l'agence de communication ODW a proposé ce projet le mois dernier à 17 théâtres. Les communicants se chargent de tout, lien avec les annonceurs, ils fournissent clé en main vidéoprojecteurs, écrans qui descendront devant la scène pour diffuser avant les trois coups un spot de 4 minutes avec des pubs et des bandes annonces d'autres spectacles de la salle concernée. Alors cette fois, ça devrait marcher, considère en tout cas Andreas Georgiou, un des cofondateurs d'ODW Régie notamment. Ça devrait marcher parce que le public a changé.
Contrairement à ce qu'on pense, quand on regarde les statistiques de la fréquentation du théâtre, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui vont au théâtre. Et peut-être que ces personnes-là vont être moins opposées. Et le bon côté, c'est que ça fait aussi la promotion des autres spectacles. Ça donne envie de revenir voir votre spectacle. Pour les théâtres, ça leur donne une autonomie financière qui leur permet justement d'investir dans de nouveaux projets, qui leur permet aussi de rendre le théâtre accessible à plus de monde.
Les théâtres qui ont accepté de tenter l'expérience expliquent que ce système devrait permettre de faire la promotion des pièces alors qu'il y a peu ou pas de publicité ailleurs, ou en tout cas c'est beaucoup trop cher pour les producteurs. Quant aux recettes publicitaires, eh bien elles seront partagées entre l'agence de com et les théâtres et ça devrait rapporter quelques dizaines de milliers d'euros par an. Mais il y a une condition sine qua non que beaucoup de directeurs de théâtre ont imposée, comme Karine Marquis, la co-directrice du théâtre des Feux de la Rampe à Paris.
Je veux pas un médicament contre les fuites urinaires ou un truc comme ça, quoi. Je veux des choses un petit peu plus élégantes. Moi, je suis pour la modernité à partir du moment où elle est au service de l'art, mais que ce soit pas l'art qui soit au service de tout et n'importe quoi. J'ai pas envie que les gens aient des images vulgaires avant d'aller rêver pendant une heure et demie. Enfin, je veux dire, c'est aussi important que les spectateurs puissent être à l'aise avant, qu'ils soient pas dérangés par des images inopportunes. Ça rend pas service au spectacle qui suit derrière.
Et c'est sans doute pour cette raison que le syndicat des théâtres privés, joint par téléphone cet après-midi, précise que cette expérience ne concerne qu'un type de théâtre très particulier, celui du one-man show, de la comédie, du théâtre de boulevard ou de cabaret, et surtout des théâtres de toute petite jauge.
Cécile de Kervas-Doué, on est rassuré. Pas de pub, c'est promis, mais un mot de météo pour la soirée des pluies qui n'épargneront que les Alpes et les côtes méditerranéennes. Alerte orage maintenue de la frontière belge aux Pyrénées. Et demain, moins d'orages, mais des alternances pluie éclaircies. Les températures avoisineront les 20 degrés au lever du jour. Merci à Emmanuel Faucillon qui a réalisé ce journal. Prochaine édition sur France Culture, ce sera à 22h avec Stanislas Vazac.